Radio éphémère 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 20 mai 2006, il fait beau, il fait chaud et vous écoutez la radio. Comme tous les samedis, éphémère ouvre avec les magazines, suppléments week-end, BD, cinéma, TV. Et puis à partir de 14h, événement spécial, éphémère est en direct du Printemps des Libertés. 6h pour les Libertés, c'est au bar Le Barnum, 60 Grande Rue Saint-Michel. Venez nous y rejoindre pour des débats d'actualité et politique et ceci c'est jusqu'à 19h. Et à partir de 19h, retour avec la musique, avec Happier, 20h, la Cetero Experience, avec DJ, trop, et quand c'est trop, c'est Fabrice. Trop. Non, c'est Fabrice. Ah. On peut aussi l'appeler Jésus, et je suis sûr qu'il fait partie du Da Vinci Code, mais ça, c'est un autre débat. 21h30, Liquid Sky, c'est l'électro. 23h, c'est la Jungle, Drum and Bass, Breakbeat Experience, jusqu'à 3h du matin avec Peyo et SKS. Et ceci, tout ça pour vous dire que nos émissions sont en direct, en public, et absolument pas différées jusqu'à 5h du matin. Et mon Dieu, oh là là. Quand même aujourd'hui, il y a du lourd, du très gros. Et que voulez-vous, hein? Quand on écoute, nous...
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Enfin, en tout cas, là, vous allez carrément pouvoir y participer pour les débats tout à l'heure à partir de 14h. Mais ça, on y viendra tout à l'heure en cours d'émission. De suite, c'est supplément week-end. Et je peux vous dire qu'on a du beau aujourd'hui, donc tant mieux, autant en profiter. Hein. Pas vrai, Thomas?
Oui, alors...
Non, on commence tranquillement. Mais bonjour quand même.
Bonjour Xavier.
Bonjour Anne.
Bonjour Xavier, bonjour Thomas.
Voilà.
C'est marrant, tu dis qu'aujourd'hui il y a du gros, du lourd, du beau. On a quand même une fille avec nous.
Oui, d'accord, ok. Non, pas taper, non.
Driving 60 miles an hour. I'll be there for you when you want.
New Order dans Supplément Week-end sur Radio FMR en guise de générique, un vieux morceau, 60 Miles an Hour. Ça balance pas mal, je peux vous dire que ce soir ça va balancer beaucoup plus que ça. C'est à partir de 21h sur France 3, c'est le concours Eurovision de la chanson.
Ah,
et Bruce nous écoute par stream en ce moment de Lille et il vient de me confirmer qu'il allait soutenir la Finlande, l'ordi, Hard Rock Alléluia. Je rappelle qu'au commentaire cette année, c'est Michel Drucker et il va se sentir tout seul. Alors, terrible moment de vieillesse tout d'un coup.
Mais il commente avec qui ce soir?
Oh, je sais pas, enfin une fille quelconque et puis oh, bzou. Nous aussi on a une fille sur le plateau qui va finir par partir en claquant la porte. Il s'agit de Anne Mignard qui est la journaliste permanente de la station. Bonjour Anne.
Bonjour Xavier.
Anne est là tout à l'heure, elle n'est plus dans le studio et pour cause, puisque en fait elle sera toujours à l'antenne mais en direct du 60 Grande Rue Saint-Michel du Barnum, tout cela pour le Printemps des Libertés qui donc est retransmis sur les ondes de Radio FMR entre 14h et 19h, si je me trompe.
Non, 14h et 18h.
Et 18h, voilà. Donc le Printemps des Libertés, ben finalement, ça tombe bizarrement bien, puisque donc on a notre cher ministre de l'Intérieur qui est allé faire des relations extérieures et qui se fait accueillir fraîchement d'ailleurs. On parlera tout à l'heure du discours qu'a fait Bush justement à propos de sa propre loi sur l'immigration. Un grand moment de télévision assez étonnant. Et plein d'autres choses. Et Thomas, lui, heureusement, parlera tout à l'heure au cinéma d'immigration subie et d'immigration choisie. C'est ça, c'est Da Vinci Code?
Non, c'est Doom.
Doom le film, d'accord, ok. Mais ça n'est absolument pas le sujet et c'est beaucoup moins drôle ce dont on va causer tout à l'heure. Donc Anne, tout à l'heure, il y a des débats.
Alors tout à fait. D'abord, de 14h à 15h, donc c'est une petite spéciale FMR, puisqu'on fait une émission avec les invités qui parleront toute l'après-midi au Barnum. Donc il y a Evelyne Cyr-Marin qui est du syndicat de la magistrature qui viendra parler des dérives sécuritaires, que ce soit au point de vue de la loi mais aussi des pratiques, notamment de la police bien entendu.
Des choses, des manières reconduites et tout ça qui ne sont pas toujours très bien codifiées ou alors comprises.
Voilà, notamment lors des événements qu'il y a eu en novembre 2005 pardon, dans les banlieues et aussi la répression envers les jeunes sur le CPE. Donc voilà, et ensuite on abordera le problème donc de l'immigration jetable. Sarkozy parle lui d'immigration choisie, mais il faut bien dire que c'est une immigration jetable. Avec Isabelle de Saint-Saëns du Gisti, qui donc
le Gisti c'est
le Gisti c'est un groupement qui permet qui travaille en fait avec des sans-papiers. Et donc qui voit tous les jours, c'est un peu comme
avec les travailleurs immigrés, voilà.
Voilà aussi, puisque effectivement on peut être travailleur immigré en France et ne pas avoir de papiers. Et donc qui travaille donc avec les sans-papiers et qui a bien bûché les nouvelles lois Sarkozy, notamment avec la participation aussi du réseau Éducation sans frontières 31, qui tous les jours cache des enfants pour pas que les flics les embarquent et les mettent dans des avions, puisque tous les enfants et toutes les familles sans papier n'auront pas la chance de la mère malienne de revenir par un avion spécialement affrété par le ministre de l'Intérieur qui s'est fait taper sur les doigts au Mali.
Bah oui, et puis maintenant, et puis ah, mais quand même, il y a du bon dans cette loi. Ce qui paraît maintenant, on va reconduire les enfants à la frontière qu'une fois qu'ils ont fini leur année scolaire. Oh, c'est sympa ça.
C'est justement pour ça que le réseau Éducation sans frontières cet après-midi intervient, puisque donc il va y avoir, ça va être l'urgence, notamment à partir du mois de juin, les flics vont se dépêcher de.
Allez, vite, t'as pas eu ton bac? Allez hop, à la frontière. T'as eu ton bac, on t'envoie quand même à la frontière.
De recenser les enfants sans papier et leur famille. Donc voilà, donc ça c'est de 14h à 15h, donc en compagnie de Camille Choteau que vous retrouvez tous les vendredis à midi, et de Ismaan Zeribi qui est aussi qui fait l'émission le dimanche après-midi. Et puis donc à partir de 15h, Radio FMR va retransmettre toutes les interventions des invités qu'il y aura eu de 14 à 15h avec les débats en salle, et ça jusqu'à 18h. Voilà.
D'accord. D'un autre côté, donc, si vous voulez en savoir plus, eh ben, Printemps de la Liberté, vous pouvez y aller directement, c'est au bar Le Barnum, 60 Grande Rue Saint-Michel. Je dis ça pour ceux qui nous écoutent en direct et pour ceux qui nous écoutent dans la zone de radiation hertzienne de Radio FMR, hein. Sinon vous allez vous sentir un peu mal. Et sinon, ben, tous les liens sont sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net. Pas du sport tout à l'heure et pour cause, et en plus parce que du coup il a dit ouais, vous vous démerdez sans moi les jeunes, etc. Il a dit qu'il passerait peut-être, mais je me sens mal de faire deux heures d'antenne.
Oui, pour nous parler de Dr House. Non, ça va faire un sketch.
Non, ça commence à être récurrent et un peu lourd. Accessoirement, oh, moi je vais vous dire qu'il y a du beau aujourd'hui, qu'il y a quand même. Attendez, excusez-moi, mais là on est en cave, hein, mais on sent que le soleil là, il est radieux, il est revenu, qu'on va vers une grande période de sécheresse.
Il a intérêt parce qu'en plus cet après-midi, il faut dire que les débats au Barnum, alors il y a apéro bien entendu, grillade ce soir, mais en plus tous les débats sont dehors. Donc la pluie,
ah,
si elle pouvait rester
c'est
dehors,
pas, c'est ça, pas dans c'est le bar. Ailleurs.
Voilà, c'est assez festif, alors les émissions d'FMR se font dans le bar, mais les débats se font à l'extérieur, donc ça va être assez sympa.
Donc ça vaudra le coup de venir. Et après, eh ben, figurez-vous que vous pouvez toujours sortir, par exemple ce soir à partir de 19h jusqu'à 00h30, Lumière dans la ville, c'est une performance, installation, projection, concert, c'est au musée d'art moderne et contemporain des abattoirs, allée Charles de Fitte. Lumière sur la ville est un programme qui est proposé par Volk System dans le cadre de la manifestation nationale La Nuit des Musées. En partenariat avec la galerie d'expo à la plage, avec Anexia, qui est un organisateur de concerts, AVR, le syndicat mix des abattoirs. Donc, l'auditorium des abattoirs, c'est en sous-sol, malheureusement. Hein, voilà, c'est comme ça. Mais bon, voilà. Et le concert commence à 21h. Un concert avec Icarus et Ryuichi Kurokawa. C'est donc à l'auditorium ce soir. L'entrée est libre, bien évidemment. Et puis, voilà. Accessoirement. Si vous avez une voiture et si vous avez envie de vous bouger, et ben figurez-vous qu'il y a le Festival Star de la bière et des stars en soutien au label Brasseuse. C'est à Terre Blanque, une ferme qui est à Saint-Lys, à 30 minutes de Toulouse. Et à partir de 13h, c'est-à-dire dans une heure, Garden Party, table de presse avec le kiosque du Clan D. Indie Media, qui est donc une agence de presse indépendante et associative au niveau mondial. Act Up, Unearthed, l'expo Explosion d'usine. Explosion d'usine, c'est un événement qui avait lieu habituellement au Mix Armiris tous les ans en septembre depuis 2001. Donc voilà, ça s'appelle Explosion d'usine. Bon, c'est pas très fin, vous allez me dire. Mais après, il y a du concert avec Outtakes. C'est un trio rock noise à la Godspell You Black Emperor. Yeah. Ensuite, il y a Mademoiselle, trio rock noise. Marvin, trio rock et électro rock. Nuit Noire, un duo de métal poilu. Agast, BSB, Hit Hit Experience, c'est du grind. La peau et les os, c'est du power violon. Revengers, c'est du zarp funk chanté. Et d'autres superstars, voilà. C'est à Terre Blanche, une ferme à Saint-Lys. Donc, à partir de maintenant, voilà, vous pouvez déjà y aller.
Ce listing a été réalisé sans effets spéciaux.
On commence avec les news avec un dessinateur de BD qui a son propre blog. Il y en a plein, il y a Melaka, Maliki, il y a plein de dessinateurs qu'on aime beaucoup. Ça a commencé, il y en a qui tiennent carrément une fiction qui est mise à jour 2-3 fois par semaine, comme megatokyo.com. Ça c'est en anglais. Il y a Lewis Trondheim qui a son blog. Il y a aussi un certain
Frantico aussi.
Ouais. Je crois qu'il a arrêté son blog, je sais plus pourquoi.
Ça en fait des dessinateurs.
Ça en fait des dessinateurs, ouais. Ça rapporte pas beaucoup de sous. Hein. En général, faire un blog, ça coûte plutôt cher à faire. Et Boulet dessine donc un excellent blog, en plus de Ragnarok et Womok, qui sont deux séries qui sortent chez Glénat. Et environ 3 fois par semaine, et ben, les lecteurs du net se poilent à lire sa vision de la vie. Ainsi, mardi dernier, il racontait son retour d'un voyage qu'il avait fait d'échange culturel au Cameroun. Il avait dit « Boulet est au cas ». Alors, il a laissé les clés de son blog à des copains et c'est marrant, il y en a 3 sur 6 qui ont dit « Il est au cabaret » ou « Il est au Callgirls ». C'était... Ça pose une réputation, ça, en général. Et donc, il a raconté son retour du Cameroun. Là, il a déjà publié 2 billets sur son voyage au Cameroun. Je sais pas si tu les as lus.
J'ai survolé seulement.
C'est plutôt bien, hein, d'ailleurs. C'est assez amusant à lire. Et l'intégralité de cette mise en ligne sera visible sur France 5 dimanche 28 mai à 12h30 dans le journal du blog. Donc, après tout, pourquoi pas. La deuxième fête de la bande dessinée aura lieu du 29 mai au 5 juin. C'est une initiative du Syndicat National du Livre, section bande dessinée. Et l'an dernier, tout le monde s'était un peu foutu de leur gueule parce que ils avaient pas vraiment proposé de trucs. Il y avait juste des plaquettes, c'est tout. C'est-à-dire, ouais, acheter des BD, ouais, c'est bien. La presse a été soigneusement écartée, notamment la CBD et tout ça. Là, cette année, c'est complètement différent. La CBD a sorti une liste de 20 albums indispensables à lire qui sont sortis ce semestre. Oui, j'avoue, j'ai oublié de voter. Je me suis fait taper sur les doigts, hein, ça va. Mais promis, j'aurai la semaine prochaine, et bon, on fera un top là-dessus. Il y a aussi un petit fascicule qui a été édité spécialement pour l'occasion. Thomas, tu l'as en main d'ailleurs. Hein.
Oui.
Il est pas mal. Il raconte un peu comment on fait une bande dessinée. C'est un guide qui est plutôt bien foutu, qui permet de se repérer, aussi de lire la bande dessinée, c'est-à-dire ça vous donne des éléments sur comment la signification des phylactères, etc. Il y a, c'est très rapide, c'est très très bien pour les enfants. C'est un petit bouquin qui vous sera offert sur achat ou près d'une bande dessinée dans une bibliothèque. Donc c'est du 29 mai au 5 juin. On en reparlera, on en aura l'occasion. Ça tombe sec que dans les kiosques, Thomas a par exemple oublié de chroniquer Madagia.
Je n'ai pas oublié, je n'ai pas eu le temps de le lire cette semaine car j'étais sur la lecture d'un gros pavé dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc j'ai pas pu tout faire.
C'est-à-dire que là tout à l'heure on va vous parler Thomas va parler cinéma, mais va parler bouquin de cinéma.
Voilà. Et donc on peut pas tout lire je chroniquerai le magazine Madagia, le numéro 3, la semaine prochaine.
On fait juste un
teasing. Si je suis là.
On fait juste un teasing. Et bien, le bouquin. Je veux dire, ça change d'un autre film qui est adapté d'un bouquin et qu'il ne faut pas aller voir. Et pourquoi il ne faut pas aller voir ?
Eh bien, déjà, pour commencer, parce que c'est la même intrigue que la première saison d'Alias, dont l'adaptation au cinéma par J.J. Abrams n'a toujours pas quitté nos écrans d'ailleurs.
On reparlera tout à l'heure de Da Vinci Code, bien évidemment, et d'ailleurs j'ai un témoignage direct de Cannes, un témoin qui m'est précieux, hein, qui va là-bas, et qui m'a dit, c'est très simple, en ce moment à Cannes, pendant le festival, si tu ne vois pas pendant 10 secondes une publicité sur Da Vinci Code, c'est que t'as les yeux fermés. Ah bon ? Je crois qu'on va beaucoup l'utiliser, ce jingle, aujourd'hui. Bande dessinée, point de vue, revue de presse. Ah, il y a quand même de très 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 mauvaises nouvelles. Figurez-vous que Pif Gadget est dans le rouge. Et ils sont... Ouais, c'est un peu normal hein, pour un magazine issu de la presse communiste. Mais ils sont non seulement dans le rouge, mais ils sont carrément en redressement judiciaire. Puisque la société Press News qui a relancé le mensuel, qui a relancé en mensuel, puisqu'au départ c'était un hebdomadaire, hein. Pif Gadget s'est déclaré en cession de paiement le 19 avril dernier, ça on l'a appris dans Le Monde, et donc ils avaient tenté de relancer en juillet 2004 en se disant ouais, le cadeau bonus et tout, ça va bien marcher. Regardez Télé 7 jours, ils offrent aussi des cadeaux bonus, ils offrent des DVD et tout. Donc ils avaient obtenu quand même, ils avaient vendu 360 000 exemplaires du premier numéro, ils en revenaient pas. Mais malheureusement, le magazine ne marche pas si bien que ça, puisqu'en fait, il fidélise pas vraiment des gamins, mais il fidélise plutôt les nostalgiques du.
Les anciens gamins, en fait.
Les nostalgiques d'une certaine idée du communisme et tout. Non, mais je déconne, je vais chambrer. C'est pas le moment. Et à ce sujet, l'info était sortie dans l'actualité et Patrick Alpel-Müller, directeur de la rédaction de Pif Gadget, a tenu à faire une précision. Pif Gadget ne cesse pas sa parution. Le numéro 23 sera dans les kiosques début juin et le 24, numéro d'été, sortira accompagné d'un gadget spectaculaire. C'est quand même pas une très bonne saison pour les magazines BD puisque Capsule Cosmique sort le dernier numéro, le numéro 21. Il arrive en kiosque en juin prochain et c'était une belle aventure qui avait été lancée par les éditions Milan, qui sont pas très loin d'ici, hein, Milan Éditions, ils sont de Toulouse. C'est les mecs qui avaient fait Toboggan et Mikado. Et Capsule Cosmique avait eu droit à sa propre exposition lors du festival d'Angoulême, et ben malgré tout, c'était une revue pour enfants qui était très bien, bien foutue, vraiment de qualité. Et là, ben, ça n'a pas marché, dommage. Bon. Metal Hurlant, le numéro 146, un hors-série vacances un peu particulier, puisque lui, il est intitulé aussi « Oraison funèbre ». Et pourquoi ? Parce que eux aussi, Metal Hurlant a été relancé, puisque le magazine Metal Hurlant avait disparu en 94-95, je ne sais plus exactement. Et là, ben, ils arrêtent, c'est un peu dommage, c'est un papier de très bonne qualité, c'est un format un peu différent du format comics qu'ils utilisent actuellement. Et ben, on s'en fiche un peu finalement, savoir est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment une fin ou non, puisque ben c'est un très bon collectif avec 7 histoires courtes inédites qui sont scénarisées. Par exemple, il y a Jean-David Morvan, Jim McDonald, Dim Wembley, il y a aussi Fred Lebert, j'ai cru voir passer. Non, il n'y a pas Jodorowsky. Il y a des dessinateurs comme Javi, Beltran, il y a vraiment de très très bons. Très bonnes histoires, assez étonnantes à lire, qui montrent vraiment la richesse de cet éditeur, qui est les Humanoïdes Associés. Et donc Metal Hurlant, et ben 6,95€, il est paru normalement, et ben, ce qui paraît, c'est le dernier. C'est un peu dommage, on espère que non, qu'il va se relancer. Le numéro 146, parce qu'ils ont gardé la suite chronologique de tous les numéros de Metal Hurlant, ben, espérons que ça va continuer. Qui c'est qui avait lancé Metal Hurlant déjà ? Il y avait Moebius,
Dionne,
il y avait du beau monde, hein.
Ah ouais. Mais il y a l'anthologie qui est sortie que j'ai reçue à Noël d'ailleurs, et j'ai toujours pas lu d'ailleurs.
C'est pitoyable.
Manque de temps, vous imaginez pas ce que c'est.
Ouais, on en parlera en cours de cet été, je pense que ça vaudra l'occasion. Midi 22 sur la poubelle des radios, vous écoutez FMR 89.1 MHz, c'est Supplément Week-end et je suis en train de changer les CD pour ensuite vous parler de bande dessinée. Thomas, on est témoin que d'ailleurs je suis en train de jongler.
Oui, avec des piles de listes qui se cassent la gueule.
Ça aide pas.
Les CD qui sont cachés sous les papiers, oui, à la recherche du CD perdu. Oui, Xavier sort le disque du boîtier, il appuie frénétiquement sur le bouton qui clignote.
Et c'est parti, on va commencer avec Thierry Matera au scénario et Stéphane Boutel au dessin. Ça s'appelle Destin Croisé, le tome 2 vient de sortir, il s'appelle Opération Colombo dans la collection Graphica chez Glénat. 11 septembre 1973, cette date vous dit-elle quelque chose? Elle est très importante au niveau politique.
C'est, oui, en Amérique du Sud.
Ouais, t'as le conducteur sur
les yeux. Ah non, puisque moi je sais que l'11 septembre, justement, ça avait été récupéré par les États-Unis en 2001, mais il y avait eu aussi en 11 septembre.
Une catastrophe produite par la CIA et par les États-Unis, puisqu'il s'agissait de la chute du président chilien Salvador Allende par un carteron de colonel, un certain Pinochet qui deviendra général et ensuite patron de ce pays, soi-disant à son corps défendant. Le premier tome racontait l'histoire d'un Français, François Guillard, établi au Chili et qui va se retrouver persécuté par la junte militaire, c'est-à-dire qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment et en plus avec les mauvaises idées. 2 ans plus tard à Paris, un couple d'artistes chiliens donne un spectacle pour tenter de sensibiliser l'opinion française aux crimes de la dictature chilienne. Leur assassinat semble commis par les services secrets chiliens. Un commissaire antipathique est sur l'affaire et fait appel à Amédée, un policier français qu'on a vu dans le premier tome, qui a eu le malheur de passer au Chili pour aider son ami François Guillard. Ce dernier est d'ailleurs activement recherché par les militaires chiliens qui manipulent son ancienne amante Ingrid qu'ils envoient à Paris. Celle-ci n'a pas vraiment le choix car son enfant est otage d'un des camps militaires. Bon, alors comme ça semble assez compliqué. En fait, c'est pas vraiment ce que je reprocherais au bouquin. C'est pas non plus son ton assez manichéen, un peu complaisant d'un côté et accusateur de l'autre. De quoi ? Ah, je vous laisse découvrir car sinon je dévoilerai l'intrigue. Non, de ce côté-là, je trouve plutôt que l'histoire reprend vraiment très bien les recettes du roman noir de l'époque, mais surtout le contexte. Le lecteur d'aujourd'hui peut trouver peu vraisemblable que les services secrets de dictature sud-américaine aient pu assassiner en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre, sans que les autorités réagissent. Et pourtant, l'opération Condor... On parle d'une époque où le communisme représentait aux yeux de l'Europe de l'Ouest un vrai danger. La crainte de tomber et devenir une petite province inféodée au politburo de Moscou. Et à l'époque, l'extrême gauche n'avait rien de pathétique comme une ancienne banquière qui croit au lendemain qui chante pour 2007. Camarade, camarade! Ni d'aussi romantique qu'un facteur à la bouille prépubère faisant sa tournée en vélo dans les quartiers hautement défavorisés et insalubres de Neuilly-sur-Seine. Non. À cette époque, l'extrême gauche, c'est surtout les brigades rouges en Italie, les cellules communistes combattantes en Belgique, la fraction armée rouge en Allemagne de l'Ouest, l'armée rouge japonaise. J'en oublie plein et il faut ajouter que Waldi Haddad et Action Directe n'avaient pas encore fait parler d'eux. Bref, des terroristes qui croyaient sincèrement qu'à coup d'attentats meurtriers et aveugles, à coup d'assassinat, quoi, on puisse convaincre le prolétariat de se rebeller contre le patronat. Ouais. En clair, l'extrême gauche était à l'époque réellement vue comme un danger par les autorités et les polices des pays occidentaux, mais aussi par l'opinion publique. Pas comme politique, mais comme assassin. Et c'est pas une justification ou une excuse que je cherche, mais il est important en lisant cette BD de donner les clés d'une période noire où l'idéologie politique croyait pouvoir justifier par l'assassinat et la torture, des deux côtés des extrêmes. Le très gros regret de cet album, c'est son dessin, un trait assez haché et nerveux qui rend parfois la lecture pas vraiment agréable, et c'est vraiment dommage. Destin croisé, le deuxième tome s'appelle Opération Colombo, c'est sur un scénario de Thierry Matera et un dessin de Stéphane Boutel, c'est dans la collection Graphica chez Glénat. Ouais.
Moi je dirais pas que le trait nerveux, je dirais qu'il est hésitant.
Il est hésitant, ouais, mais franchement il est plein de maladresse.
Voilà.
Sincèrement.
Parce que les traits nerveux, les BD camouflés, on connaît en rayon, hein.
Oui, à France, ouais. Il y a la régie qui me fait signe, 12h26, c'est quand même, j'ai une chronique BD qui est assez longue. Non, tant pis, je l'attente. Allez hop, zou. Johnny et My Street. Vient de sortir, c'est une nouvelle série qui sort chez les éditions Chiaopan et deux tomes viennent de sortir coup sur coup, La folle aux abeilles et La maladie mystérieuse. Bon, ça commence par l'histoire d'un immigré chinois. Je vous avais dit qu'aujourd'hui c'était un spécial migration sur Radio FMR. Mao Ye, donc, qui est un jeune immigré chinois qui, pour trouver de quoi se nourrir, eh ben, il s'est intégré dans le clan d'une mafia chinoise, les nettoyeurs à sec. Un nom comme ça, on se croirait dans un film de Hong Kong, je sais pas pourquoi. Oui, mais voilà, il en a eu marre, donc il a mouchardé pour la police. Et comme le gang le sait, il s'apprête à passer un très 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 sale quart d'heure. S'il n'y avait pas eu une fusillade providentielle et s'il n'était pas soigné par une étrange vieille femme qui vit au milieu d'une décharge. Complètement branque la jeune femme, au point de vivre avec toute une ruche d'abeilles. Pour avoir sauvé la vie de Mao Ye, ce dernier doit écouter l'histoire qu'elle lui raconte jusqu'au bout, celle d'un garçon qui bricolait des machines volantes, qui s'enfuit d'un asile d'aliénés avec une fille et que le couple de fugitifs fuit la ville. Et à partir de là, l'histoire elle bascule, elle se révèle, elle part de la rue de la violence, on découvre qu'on est dans un univers... complètement étrange, fantastico, onirique. C'est un truc complètement incroyable. Cet univers où il y a une maladie, une épidémie qui transforme les hommes en essaims d'abeilles, que certains enfants ont des pouvoirs de télékinésie. On part dans un incroyable voyage fantastique, aussi bien dans le trait et le graphisme très 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 bien foutu.
C'est énorme, hein.
C'est énorme.
Les couvertures sont splendides.
Mais aussi dans l'incroyable richesse du scénario de John Nye qui n'hésite pas à jouer continuellement sur plusieurs niveaux. Et l'étonnante idée narrative de cette série, c'est que Mao Ye doute parfois de l'histoire de la vieille femme qui lui raconte alors une histoire alternative. C'est idiot, mais ce chaos dans l'histoire la relance sans cesse avec humour. Le dessin est très délicat, souligne bien la fragilité des personnages et la découverte de cet univers très étrange. Mais en même temps, ça le rend parfaitement, les scènes de baston, l'impuissance des personnages ou l'hésitation finalement de l'auditeur obligé. À vrai dire, on revient régulièrement sur plusieurs dessins à cause de l'accumulation de détails qui fait que le lecteur s'y noie avec délectation. C'est dire le niveau de qualité qui est atteint dans cette série qu'on va suivre avec un immense plaisir. On est vraiment dans une série d'une créativité insoupçonnée, au parfum très frais, à la lecture très agréable. On ne sait pas si on lit une bande dessinée européenne ou une manga, mais en fait c'est un produit d'importation chinoise. Et ça nous amène un univers réellement créatif et original. Comme quoi il y a de très grands auteurs qui nous attendent là-bas et pas seulement des très mauvaises pâles copies de produits industriels. Johnny, c'est une nouvelle série qui est éditée chez Chiaopan, ça s'appelle My Street. Le premier tome s'appelle La folle aux abeilles, la deuxième s'appelle La maladie mystérieuse. Thomas lui il veut carrément me le braquer parce qu'il trouve ça absolument génial. C'est monstrueux, hein, c'est... Tu peux dire dessus quoi, c'est.
Bah là, j'ai juste survolé le dessin et le dessin, franchement, il m'a mis par terre. Et après, je pense que l'histoire, ça doit être la même chose puisque c'est assez onirique le dessin. Je sais pas si c'était dans la réalité ou quoi que ce soit. Enfin, je t'en dirai plus quand je l'aurai lu.
C'est clair. Thomas, dans quelques minutes, tu vas nous parler du Da Vinci Code et des raisons pour ne pas le voir. Il est midi et 30 minutes sur Radio FMR. Je sais pas, une raison là comme ça pour ne pas voir Da Vinci Code ?
Ah bah, tout simplement parce que Ron Howard est aux auteurs ce que McDonald's est à la bouffe. Tout le monde dit que c'est pas bien, mais les gens y vont quand même.
Mais tout de suite, c'est la pub.
Hello, who's that speaking, please?
Le lavage du cerveau, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert?
Le lavage du cerveau ne sert pas à grand-chose. Mais vous pouvez en profiter tous les lundis sur FMR 89.1 avec le TBBG, le grand bazar
c'est
Bernard
énorme,
Rancher.
Énorme. J'adore cette émission, elle est énorme.
Rediffusion n'importe quand, n'importe comment sur FMR. Rediffusion du TBBG n'importe quand.
Et au kilo du supporter violent et raciste, le cours du PSG mérite une enquête de l'autorité des marchés financiers.
Ça, c'est du sport. Tous les samedis, 13h sur FMR.
Mon fucker, j'étais en train de dire Jean-Pierre Gaillard, viens là et tout quoi.
Allez.
FMR. C'était une petite exclusivité, c'est la campagne de pub de Du Sport. Il y a 4 pubs différentes, spécialement prévues pour le mondial de Du Sport. Il n'est pas tout à l'heure à l'antenne, puisque donc on fait un supplément week-end un petit peu allongé. Et à partir de 14h, on switch avec le Printemps des Libertés qui a lieu donc au bar, le Barnum. Qui est aux 60 Grande Rue Saint-Michel. On vous invite sincèrement à y aller. Pour ceux qui nous écoutent en direct, c'est l'occasion. Thomas, cinéma. Oui, cinéma, d'accord. Ok. Tu veux le jingle, c'est
oui,
ça ?
Oui. À boule.
Oui. Pardon ? En son THX Dolby Mono, Thomas.
Merci Xavier, c'est toujours un plaisir. Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler non pas d'un film, mais d'un bouquin. Il est entré au cinéma, un bouquin de Peter Biskind, au Cherche Midi Éditeur, qui s'appelle Sexe, mensonge et Hollywood. Alors,
c'est un pavé énorme. Hein.
C'est un pavé énorme. Il fait combien de pages? Il en fait à peu près plus de 650.
Ouf.
Donc tu comprends pourquoi j'ai mis 3 semaines à le lire. Et alors Peter Biskind, pour ceux qui aiment bien les bouquins sur le cinéma américain, il vous dira peut-être quelque chose parce qu'il avait écrit un autre bouquin qui s'appelle en VO Easy Rider Raging Bull, et en français il s'est appelé Le Nouvel Hollywood, ou comment la génération Lucas, Spielberg, Scorsese et Coppola ont révolutionné Hollywood. Et ça parlait de l'avènement des cinéastes des années 70, fortement inspiré par la nouvelle vague française, et sous l'emprise de stupéfiants, de drogues, de LSD et tutti quanti. Et de
on fait pas du prosélytisme, c'est pas bien. Hein.
Voilà, ils finissaient souvent à poil, ils avaient des phobies, ils étaient complètement névropathes et tout. Et ben ils ont révolutionné le cinéma américain avec des films comme Le Parrain, comme Les Dents de la Mer, comme Raging Bull, Taxi Driver, etc. Et il raconte un peu, dans ce précédent bouquin, il racontait les mésaventures des cinéastes, comment leur ego surdimensionné les ont fait qu'ils sont entrés dans le système, comment George Lucas au départ était parti pour faire des films obscurs de SF complètement barge en noir et blanc, et comment il est devenu un empereur au sommet d'un petit empire Skywalker Ranch. Alors là, en fait, il parle cette fois-ci du cinéma indépendant, Peter Biskind, du cinéma indépendant américain des années 90. Alors, c'est quasiment un livre à charge contre les frères Weinstein de Miramax. Alors, ça parle du festival de Sundance, créé par Robert Redford qui au départ était censé servir les réalisateurs débutants, les réalisateurs indépendants pour trouver des financements pour leur montrer leur pour qu'ils montrent leurs films dans les salles, etc. Et finalement comment Sundance est devenu une institution, voilà. Et surtout il parle des deux Miramax. Alors Miramax, au départ les frères Weinstein, ils ont commencé par par faire la promo de concerts de rock. Et ils se sont dit tiens, on va appliquer la même chose au cinéma, parce que il faut savoir que les frères nourrissaient depuis longtemps de faire du cinéma, et c'est ce qui apparaît en filigrane dans tout le bouquin, c'est que Harvey, ben, c'est l'aîné des frères Weinstein et le patron de Miramax, c'est en fait un cinéaste raté. C'est un cinéaste qui est passé à côté de sa vocation, un cinéaste refoulé. Alors, pour comprendre bien ce qu'est le cinéma indépendant, il y a une petite intro au début. Alors, quand on parle de cinéma indépendant, de nobles concepts tels qu'intégrité, originalité, expression artistique et sacrifice nous viennent à l'esprit. On imagine des jeunes cinéastes fauchés se couvrant de dettes pour rémunérer les acteurs et techniciens qui s'échinent eux-mêmes sans compter les heures et pour une bouchée de pain par amour du métier. Ce qui est vrai aussi puisque Kevin Smith a travaillé dans une supérette quand il a montré son premier film. Un cinéaste indépendant ne gagne pas d'argent, remarque Quentin Tarantino. Il engloutit tout son fric dans son film. Il est fauché, capable de tout, d'emprunter à ses parents, de voler ou de s'endetter à vie. Le résultat peut être génial ou bien nulissime, mais au moins c'est son film à lui. L'auteur continue. Bien qu'il y ait une part de vérité dans ce lieu commun, les choses sont loin d'être aussi simples. On dit souvent que le milieu indépendant est à Hollywood ce que la mafia russe est à la Camorra. Dans les deux cas, les méchants flinguent des gentils, mais à Hollywood, où l'on fait preuve d'une certaine classe. Votre assistant reçoit une corbeille de fruits après coup. Chez les indépendants, en revanche, on vous bute avant de s'en prendre à votre femme et vos enfants pour faire bonne mesure. Le monde des studios est une prison dorée. Le milieu indépendant, c'est le mitard. Cellule plus sombre, plus miteuse et beaucoup plus étroite. La férocité de la concurrence est inversement proportionnelle aux enjeux et aux avantages offerts. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Aussi, quand les temps sont durs, les rats, bon, faisons preuve d'indulgence, les souris s'entre-dévorent. Et comme on est livré à soi-même, on n'a aucun répit, aucun recours. Dans ce milieu, les manières sont encore plus désastreuses qu'à Hollywood. Et c'est vrai que, d'après ce qu'il raconte, il a cumulé des centaines d'heures d'entretien avec les gens qui font la pluie et le beau temps dans le cinéma américain. Certaines sources sont mentionnées, comme Spike Lee, qui en a rien à foutre de se prendre des baffes par Harvey Weinstein. D'autres ne veulent pas poser leur nom aux déclarations. Donc, il dit, d'après une de mes sources, le procédé est discutable, mais quand tu comprends...
Il se dit dans les milieux autorisés.
Voilà, quand tu comprends la personnalité des frères Weinstein, tu comprends bien... Some people say, tu comprends bien que certains cinéastes ne veulent pas mentionner leur nom. Et tu lis des aventures, mais tu connais les films, et là quand tu sais comment ils étaient montés, comment ils étaient coupés, mais c'est vraiment scandaleux. Will Hunting, le film, comment Matt Damon et Ben Affleck, qui sont aujourd'hui des stars, ont trimé pendant 6 ans pour monter leur film, comment Ben Affleck est devenu accro au fric alors que Matt Damon était déjà à l'époque obsédé par le côté artistique. Harvey Weinstein, c'est un requin, c'est une brute, il fait du chantage, il dit tiens, si tu veux pas couper ton film et remonter comme je te le dis, ben il va finir dans un placard, je te distribuerai jamais tous tes films suivants que tu me dois par contrat. Il s'empare de projets qu'il adore, tout ça pour remonter et pour dire au réalisateur bon, c'est bien ce que t'as fait, mais ça correspond pas au public, parce qu'on a fait une projection test dans un centre commercial là, et puis il y a seulement 40% de résultats favorables. Donc tu vois là, mon assistant, l'assistant qui était surnommé dans le bouquin le boucher à la cassette, voici le montage de Miramax, donc tu vas y jeter un coup d'œil. Alors évidemment, les cinéastes, comme pour être cinéaste il faut avoir quand même un sacré caractère, donc va te faire foutre, jamais je toucherai à mon film. Bon, ok, ben il sortira jamais alors. Et il y a certains films qui sont restés dans le placard pendant 6 ans, le réalisateur ne voulant pas le retoucher. C'est vraiment c'est un polar, c'est un truc à vomir. Pendant que Harvey Weinstein remontait les films à l'insu des réalisateurs parfois, et bien, son frère créait une filiale de Miramax qui s'appelle la boîte Dimension, et qui a produit pas mal de films de genre qui ont à une époque sauvé Miramax. Ils ont produit Scream, enfin la trilogie Scream, beaucoup, les autres, etc. Et surtout tu apprends beaucoup sur la campagne pour les Oscars. Pourquoi les frères Weinstein, pourquoi Miramax place beaucoup de ses films nominés, pourquoi ils trustent tous les Oscars? Parce qu'ils savent, ils font du rentre-dedans, ils savent que les votants, ce sont des acteurs, donc ils misent à fond sur la campagne. Ouais, regardez, il y a tel acteur dans mon film. C'est pour ça que tu as toujours les mêmes acteurs dans les films Miramax. Renée Zellweger, pourquoi elle est nominée toujours aux Oscars? Parce qu'elle fait partie de la famille Miramax et que les fans Weinstein, ils l'aiment bien, donc ils poussent à fond derrière. Ouais, et s'il n'y a pas de campagne de pub de Miramax, eh ben, il y a des performances d'acteurs, Michael Caine, par exemple, dans des films obscurs qui n'ont pas été soutenus par Miramax. Mais pourquoi ils n'ont pas d'Oscar? Parce que les frères Weinstein n'ont pas été derrière pour mettre la pression. C'est absolument édifiant, ce bouquin. D'ailleurs, je pense que, bon, de façon, Xavier, il n'a pas le temps de le lire, mais je te l'aurais bien proposé.
Parce qu'il semble vraiment alléchant, quoi.
Ouais, ouais. Puis il raconte aussi comment Miramax a commencé en essayant de sortir des films à polémique, comme un film anglais qui s'appelle Priest, avec un prêtre pédophile. Il voulait le sortir le Vendredi Saint pour choquer les gens, et comment il en est venu à produire et sortir Shakespeare in Love, une meringue autour du dramaturge anglais. C'est voilà comment Miramax a fini. D'ailleurs, les frères Weinstein, je crois, ont été virés de Miramax. Ils sont partis de leur côté fonder Weinstein Company, d'ailleurs. Voilà, il s'agit de un livre de Peter Biskind. Il est un peu lourd, je suis en train de m'en emparer. Sexe, mensonges et Hollywood. C'est au Cherche Midi éditeur. Ça commence à peu près à l'époque de la fin des années 80 avec l'émergence d'un cinéaste comme Steven Soderbergh avec Sexe, mensonges et vidéo. C'est pour ça que le film s'appelle comme ça. Le livre s'appelle comme ça. Et ça finit à peu près à l'époque où Martin Scorsese arrive modamment lent à sortir son film Gangs of New York, qui a été mis au placard par les Weinstein pendant 4 ans.
Ah oui, parce que c'est vrai que c'est un projet qu'on avait entendu parler depuis super longtemps.
Ah oui,
super,
puisqu'à un moment donné, il devait sortir en septembre 2001. Merde. On l'a repoussé d'un an. Enfin, c'est, voilà, Scorsese a été humilié au passage par les fans Weinstein. Bon, il y a quantité d'anecdotes à sortir d'après ce bouquin, mais il n'est pas trop cher, 20 euros. Voilà, Peter Biskind, Sexe, mensonges et Hollywood au Cherche Midi éditeur.
Radio FMR 89.1 MHz et supplément week-end. Je rappelle que tout à l'heure, à partir de 14h, nos émissions seront retransmises à partir du Barnum pour le Printemps des Libertés, où il y aura des débats en public, en direct, et d'ailleurs vous êtes invités à venir nous rencontrer et en discuter. Donc à partir de 14h30, il y aura un débat où en est-on des dérives sécuritaires avec Evelyne Cyr-Marin du syndicat La Magistrature et la Fondation Copernic. Non à une immigration jetable avec Isabelle Saint-Saint du GISTI, la participation du réseau Éducation sans frontières et du collectif toulousain contre l'immigration jetable. et des intermèdes musicaux avec Jean-Paul Pujol et le petit orchestre du Chapelier Fou, ainsi qu'à 19h quand nous on aura raccroché, il y aura la teigne, des activistes musicaux, des apéros, des grillades, ça je crois pas que ça fasse partie des groupes et tout ça. Dans quelques instants, Thomas va nous expliquer si oui ou non nos chers amis de Miramax auraient pu produire Da Vinci Code.
Non.
T'es un peu définitif là.
Ils auraient pas pu parce que de toute façon, un film où Jean Reno en friendship patibulaire, mais vous en avez pas marre.
On marque un break musical. Seigneur Coconut! Yellow Magic!
With me.
Vous écoutez Radio FMR, c'est le supplément week-end sur 89.1 MHz. C'est comment vous dire, Thomas, je crois que tu vas nous parler du film qui cartonne tout.
Le film qui cartonne tout ce qui bouge.
Ouais.
C'était quoi déjà? C'est pas David Chicode?
Non, je crois pas d'ailleurs.
Ah, tu sais, on peut pas aller voir Da Vinci Code parce que le moine albinos fait penser au méchant des Rivières pourpres 2. Tu sais, avec Jean Reno et scénarisé par Luc Besson. Ah, tiens.
T'es inquiétant tout d'un coup.
Ouais.
Là, t'as foutu l'ambiance, hein.
Ouais.
Doom le film. Une immigration subie ou une immigration choisie?
Telle est la question. En parlant d'immigration, c'est d'ailleurs un cinéaste polonais qui a réalisé le film qui s'appelle Andrzej Bartkowiak. Et alors peut-être que le nom vous dira quelque chose si vous êtes amateur de navets, car il avait aussi réalisé le film Roméo doit mourir avec Jet Li. L'as-tu vu, Xavier ?
Non, moi quand je veux voir un navet, le dimanche matin, je fais le marché.
Bravo. Donc... Doom, donc c'est un film qui est inspiré d'un jeu vidéo. Alors une série de jeux vidéo. Il y en a eu trois. Il y avait deux épisodes à l'époque. Il y en a eu un troisième depuis. Alors tu vois, c'est des monstres échappés de l'enfer. C'est un film un jeu vidéo qui a popularisé, qui a inventé le système Doom-like, qu'on a appelé Doom-like ensuite et qui s'appelle le first person shooter. Et c'est un système de jeu où tu flingues tout ce qui bouge et c'est en vue subjective et tu vois l'arme en bas de l'écran, ça peut être une tronçonneuse, un poing, un fusil de chasse, un fusil à pompe, une arme nucléaire, un bazooka, une mitrailleuse rotative, etc. Et voilà, donc ça, c'est toujours très fun. Alors dans ce film, on a The Rock, qui jouait dans The Scorpion King, qui interprétait le rôle du Scorpion King dans La Momie 2 et dans The Scorpion King. Il y a aussi Carl Urban. Alors Carl Urban, il a joué dans La Mort dans la peau, c'était le tueur russe qui jouait très bien d'ailleurs dans ce film. Il jouait surtout. Il a joué aussi dans Les Chroniques de Riddick, avec un casque, avec une armure, un méchant, et puis il jouait surtout, évidemment, il est connu pour avoir joué dans Le Seigneur des Anneaux, le rôle d'Éomer. On a aussi Rosamund Pike dans le film qui était la James Bond Girl, une James Bond Girl dans Meurt un autre jour, le dernier film de James Bond réalisé par Lita Maori, où elle jouait le rôle d'une traîtresse d'ailleurs. Merde, j'ai spoilé le James Bond, c'est pas grave, tout le monde l'a vu. En compagnie de Halle Berry et Pierce Brosnan.
Attends, excuse-moi, tu peux le refaire la blague parce que je... Non, je l'écouterai sur le podcast finalement en rediffusion. Hein. J'étais au téléphone.
D'accord, c'était plaisir.
Bon, pardon, désolé.
Donc, l'histoire du film.
Il y a une histoire ?
Oui, alors attends, je vais lire le tout petit résumé qu'il y a derrière le DVD. Quelque chose a mal tourné dans une station de recherche scientifique basée sur la planète Mars. Toutes les expériences ont cessé, les tentatives de communication ont échoué et les messages reçus sont tous sauf réconfortants. Le niveau 5 de quarantaine est déclaré et les seules personnes autorisées à entrer ou sortir sont les membres du Rapid Response Tactical Squad.
Mais dis-moi, tu es en train de me raconter le scénario de la grippe aviaire là ?
Ouais, un escadron armé jusqu'aux dents à la puissance de frappe sans précédent, enfin ça c'est avant qu'ils tombent sur les fusils nucléaires, pour poursuivre leur mission, rien ni personne ne doit sortir vivant. Mais une armée de créatures cauchemardesques aux origines inconnues se cache derrière chaque mur et hante les innombrables pièces et couloirs de la base. Beaucoup plus puissants et assoiffés de sang que quiconque aurait pu l'imaginer, même pas les zombies de Resident Evil. Inspiré du jeu culte, véritable phénomène mondial, Doom va vous propulser dans un déluge d'action et d'effets spéciaux menés par The Rock. Ça, c'était le petit paragraphe promo à la fin du résumé, tu vois.
Ouais, super.
Alors, tu vois, The Rock par-ci, The Rock par-là, The Rock au petit poids, etc. Alors, j'ai noté, parce que j'ai vu le film hier, en fait. Alors, pour te replacer l'ambiance... Alors, je vais voir ma copine qui est en train de bosser à côté. Oui, Sabrina... Je dirais de voir Doom ce soir à la télé, en DVD. Je sais pas, bof, c'est bien ? Non ? Ah ! Ouais, tu me rassures pas là. Bah, tu sais, c'est un AV où ça s'inspire d'un jeu où tu tout ce qui bouge. C'est un navet. Ouais. Ah, bah, très bien. Ça fait du bien de regarder les navets des fois. Alors,
ouais, c'est pour ça que je fais le marché le samedi dimanche matin que je pars.
Voilà. Arrivé à la moitié du film, là, votre copine qui dit c'est pas passionnant, hein. C'est mauvais signe en général.
Aïe.
Et surtout que
ça casse.
Et surtout que pendant le film, t'as un petit carnet à côté de toi pour noter toutes les répliques à la con de The Rock. C'est encore plus mauvais signe. Alors, j'ai noté quelques-unes. Alors, bon, évidemment, le film commence pas au début, mais commence à partir de trois quarts d'heure du film quand il tombe sur le fusil d'assaut nucléaire. Et alors, évidemment, c'était une arme pour The Rock. Alors, il dit oh putain, la fucking gun, ça va chier. C'est une des répliques qui marque dans le film. Il y a aussi, il y a des scientifiques qui deviennent des zombies parce qu'ils sont mordus par des espèces de monstres à qui on a inoculé un virus, un 24e chromosome humain qui les font cicatriser plus vite et être plus résistants. Enfin, des super armes, quoi. Et puis, il y a The Rock qui arrive et puis il voit qu'il y a plein de scientifiques qui sont morts. Et puis, il voit qu'il y a des scientifiques qui sont pas aussi morts qu'ils doivent l'être. Alors, il dit à son équipe, assurez-vous que les scientifiques morts vont le rester. C'est assez rigolo. Et il y a plein de petites répliques, puisque c'est les chefs des Marines. Alors, t'as les bras droits, enfin, tous les autres qui sont à ses ordres, qui disent, non, mais tu te rends compte? On n'est pas payé pour se rendre compte. Non mais je crois, t'es pas payé pour croire. Bon là, c'est plein de répliques comme ça. Alors le mec, il fait toujours le même genre de réplique. Et alors, sur la jaquette, il y a marqué, avec les crédits, d'habitude t'as deux noms. Par contrat, le nom à gauche c'est le plus important, le nom à droite c'est le sidekick ou le mec super connu aussi, mais moins important que le premier, celui qui est à gauche. Et là il y a marqué Karl Urban à gauche, The Rock à droite et il y a le mot « et » entre les deux. Quand il y a « et », normalement, c'est le mec super connu qui vient faire une apparition. Généralement, il se fait cramer la gueule ou alors il est là juste pour faire un second rôle conséquent. Mais on n'a pas pu le mettre au début parce qu'ils se sont disputés par contrat. Alors là, ils ont mis « et » sur la couverture. Ça veut tout dire. Bon, je vais vous raconter un petit peu. Bon, The Rock, il devient méchant parce qu'il est mordu. Hein. Et avant qu'il soit mordu, pour préparer le public, pour dire attention, The Rock, il va devenir machin à la fin du film, il faut quand même vous préparer. Il est emmené hors champ par un monstre par les pieds, puis il dit une réplique qui m'a fait hurler de rire. Hey, je suis pas censé mourir.
Ah ouais, quand même.
Et le héros, The Rock, il est pas censé mourir dans le film. Bon, évidemment, vous l'aurez.
Ou alors, il a pas lu le scénario. D'ailleurs, quel scénario? Le cinéaste l'a pas prévenu. Et il a découvert ça, il a eu un éclair de lucidité. Et ils ont gardé ça pour le montage, c'est ouais. Ça.
Il dit, eh merde, oh, c'est pas
pour une fois qu'il jouait naturellement.
Voilà. Et alors, d'ailleurs, le réalisateur, bon, c'est un pince. Voilà, je vais pas être méchant pour le comparer à d'autres, mais il a quand même, on voit bien qu'il a révisé son James Cameron illustré justement de faire le film, parce que tu as des Roland Aliens, t'as les Marines avec des armes perfectionnées contre des monstres, le mec qui se taille de les veines, ça c'est parce qu'il y a un mec qui est un peu psychopathe sur les bords et il s'entaille le bras pour parce que il faut dire ouais c'est la testostérone qui parle et tout. Alors là c'est dans Abyss, tu vois, il y a le même mec dans Abyss qui se taille le bras aussi. Et bon, tous ces éclairages bleus, ça pue le James Cameron à plein nez, sauf que James Cameron, c'est quand même un autre niveau.
Je me souvenais plus que dans Doom, il y avait les éclairages bleus. En général, c'est plutôt orange et rouge.
C'est orange et rouge parce que dans le jeu, les monstres sont sortis de l'enfer, tu vois. Dans le film, c'est comme Resident Evil. Ils ont dit, tiens, Resident Evil a bien marché, ça doit être un bon film, donc on va faire pareil.
Ça doit être un bon film.
Voilà, les décors, ils sont nickel, il y a du métal partout dans Resident Evil, on va faire pareil, donc on va faire... excite les monstres échappés de l'enfer. Ce sont des créatures créées par des scientifiques, comme dans Resident Evil. Voilà. Alors le film, pour ceux qui aiment le jeu, il faut une séquence de shootage en vue subjective. Le rôle féminin principal du film, qui joue la sœur de Karl Urban, le rôle principal masculin, elle lui injecte du produit avec le 24e chromosome, ce qui fait qu'il devient un surhomme. Et là, ça passe sans vue subjective. Alors là, tu t'attendais à un grand moment. Bon, évidemment, c'est ce moment qui sauve le film, mais on dirait une démo d'un programmeur du jeu qui connaît tout le moindre coin du jeu de A à Z. Alors c'est même pas poignant, c'est même pas bandant, c'est même pas intéressant comme passage. C'est juste un mec, t'as, y a un truc qui bouge, il le flingue. Alors que dans Doom, t'as des monstres qui te jettent des boules de feu à la gueule, t'es obligé de faire des mouvements latéral comme ça, tu vois. C'était le top. Et il fait des mouvements latéraux pour échapper aux tirs des monstres. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Mmh. Et là, il y a un monstre toutes les 15 secondes. Alors voilà, bon, c'est même pas. Voilà, c'est même pas intéressant, c'est même pas poignant. Tu trembles pas, t'es pas en train de dire ouais, pète-leur la gueule. C'est ah ouais, le mec il est en train de jouer quoi. Voilà, c'est tout. Donc la première moitié du film est à jeter. Ça commence à devenir intéressant quand il y a des zombies et des armes qui arrivent. Il faut attendre la séquence de shootage en vue subjective pour commencer à dire tiens, il y a un film qui passe sous nos yeux, c'est à chier. C'est un. Alors c'est pour ça.
Alors nanar, navet ou nul.
Les trois. Parce que j'étais tombé pour préparer l'émission spéciale Silent Hill sur une interview de Christophe Gans qui ont demandé pourquoi les jeux vidéo au cinéma ça donne de si grande merde. Et il avait dit bah il y a pas de secret, en fait les réalisateurs ils jouent 3 heures au jeu et ils pensent avoir tout compris et en fait ce sont des abrutis. Ben voilà. C'est pour ça que j'ai voulu voir le film. Il dit bon alors est-ce qu'il a raison? Il a dit oui, la séquence de shootage dans Doom ça fait plus rire qu'autre chose et voilà. Donc effectivement ça fait rire, ça fait bon. Honnêtement, je dirais pas que ça fait rire, ça c'est ouais, tu te dis ça aurait pu donner un truc bien, voilà.
Ouais, mais de toute façon, t'as laissé ton cerveau à l'entrée quoi.
Ah ouais, mais ça c'est le concept de départ, mais même il y a des films où tu laisses le cerveau à l'entrée qui peuvent être bien. Et là non.
Donc
c'était Doom avec Carl Urban et The Rock et Rosamund Pike, film de Andrzej Bartowiak qui vient de sortir en DVD chez Universal.
D'accord, et eh ben c'est marrant, mais non, on dira rien. On va être encore une fois médisant et méchant. Et
on peut parler du.
Vous êtes sur Radio FMR 89.1 MHz, c'est supplément week-end, et d'ici 20 secondes, Thomas va nous dire Da Vinci.
Ouais, Da Vinci Code, faut pas aller voir parce qu'ils ont distribué des baguettes de pain et des bérets basques aux figurants pour faire plus français.
Ouais, mais enfin, bon, là, on en est à combien de dites
Bah là, il en reste plus que 5.
Il y en a plus que 5 hein.
Ouais.
Tu les as classés?
Ouais.
Proprement?
Ouais.
Ouais, proprement.
Sur un papier et tout,
sur
avec
un papier.
Oui.
Qui dit classement dit top?
Ouais.
Et qui dit 5 dit top 5.
Le top 5. Numéro 5.
Because Jean Reno qui speak in English, it is déjà pitoyable. And so, Audrey Tautou.
Numéro 4.
Parce que Jésus, qui aurait eu une descendance cachée mais sacrée, et puis quoi encore, Ron Howard veut monter sa secte comme Romney Bard.
Numéro 3.
Parce que les films tournés durant l'été 2005 à Paris ont été des catastrophes. Ben ouais, il y avait aussi Angela et R.I.S. Police Scientifique.
Non, ça c'était une série. Ah. Ouais, c'était une catastrophe quand même.
Oui.
Angela aussi.
Numéro 2.
Parce que l'équipe du film a traversé la France en Eurostar pour venir à Cannes. Du coup, ils nous ont fait préférer le train.
Attention, il y a une blague.
Numéro 1.
Parce que si on va le voir, ils vont aussi adapter au cinéma...
Les secrets du Code Da Vinci.
Ou
Code Da Vinci, l'enquête.
Ou alors...
Le Code Da Vinci, décrypté.
Ou bien...
Da Vinci, le mystère du code.
Ou encore...
Les sources secrètes du Da Vinci Code.
Et...
Sous les pas du code Da Vinci.
Et puis aussi...
Le code du code de Da Vinci.
Et aussi...
Ce que le code Da Vinci ne vous a pas dit.
Et aussi, enfin...
Ce que j'ai cru comprendre au Da Vinci Code que je me permets de vous vendre pour 14,99€ par Frédéric Beck BD. Ce top numéro 5 vous a été proposé par l'équipe du supplément Weekend qui l'a rédigé et c'était en réaction en fait à un article qui était sorti dans Métro. On avait bien compris qu'ils étaient sponsors du film. Hein. six raisons pour aller voir le film pour ne pas mourir idiot. Ça, franchement, on s'est dit, on va se venger. Donc on a trouvé 10 et vous retrouverez l'intégralité sur le site de la radio de l'émission Supplément Weekend. Voilà. Et pour ceux qui lisent le podcast, qui nous écoutent en différé sur Internet ou en stream, hein, salut Bruce, et ben vous pouvez aussi dire votre avis dans le forum et tout. Mais bon, à partir dimanche soir, hein, laissez-moi le temps de tout mettre en ligne.
tout cas, c'est pas fameux. Donc voilà, on a une source sûre hein, au sein du Festival de Cannes. Non, je l'ai dit déjà. Excusez-moi, je fais le lien avec la répétition là qu'on a fait hors antenne. Écoutez Supplément Week-end sur Radio FMR, pas de du sport cette semaine, je suis vraiment désolé.
Brothers and sisters, there's a message for us. Today.
Néanmoins, pour la chronique télévision, c'est bien moi qui vous l'assure tout de suite. Et comment vous dire ? Lundi soir, j'ai voulu regarder quelque chose d'assez, politique. Un truc qui n'a pas été diffusé sur les chaînes françaises. Ou alors si vous avez dû entendre parler, mais très rapidement. Lundi soir, je regardais le discours de George W. Bush à propos, justement, de sa nouvelle loi sur l'immigration, immigration choisie, immigration subie et tout le reste. Et j'ai vu quelle était la réelle puissance de cet homme en tant que président des États-Unis d'Amérique. Et c'était à 2h du matin. Cette allocution était au départ d'une durée initiale d'une heure et demie. Et elle a été réduite à 20 minutes pour cause de fin de saison. Non, je veux pas dire que c'est la fin du saison du printemps, etc. Non. Ça veut dire tout simplement que le réseau sur lequel était diffusée cette allocution, c'est en fait la présidente choisit un réseau. Ils ont choisi le réseau Fox. Et ben, ce réseau diffusé lundi soir, originellement, les derniers épisodes, de deux séries télé qui sont suivies en prime time sur les networks hertziens par des millions d'accros monomaniaques. Coup sur coup, les ultimes doses de l'année pour Prison Break et pour 24. 24 heures chrono. C'est plutôt cocasse quand on se souvient de l'opinion des producteurs de cette série qui ont été exprimés dans les bonus du coffret de la saison 3 et quand on sait que la saison 5 voit le président au cœur du... Pardon, pas de spoiler, point de fiction, on parle du vrai président des États-Unis d'Amérique, le chef de l'armée la plus puissante sur Terre, celui qui a la main sur le bouton rouge du néant. Et c'est pas qu'un crétin. Donc tardivement, je tombe à 1h56 sur BBC World, où la présentatrice du plateau de Washington exprime les implications de ce que va annoncer W pour la population clandestine, du fait qu'il flatte un électorat qui est très conservateur et qu'on n'est pas loin des prémices de la seconde guerre de sécession cauchemardée par Joe Dante. Sur le plateau, un analyste politique se fait poliment interrompre de la main par la journaliste qui annonce que le président commence son allocution à l'instant. George W. Bush Jr. apparaît donc à l'écran d'un fraternel salut, good evening, à ses concitoyens soutenus par un regard volontaire, tandis que l'image recadre le plan général de son bureau à un portrait plus américain d'un élégant zoom à la lenteur révérencieuse. Le chef de l'exécutif commence son discours. J'ai demandé ce soir à prendre un peu de votre temps pour annoncer les raisons de mon apparition télévisuelle. Mais au bout de 30 secondes, un mouvement sur la gauche de l'écran, un regard incrédule du président vers la personne hors cadre que l'on devine et qui est interrompu dans son élan par quatre mots, un froncement déconcerté du front super puissant et carton. Vue générale en photo de la Maison Blanche avec le sceau présidentiel modélisé d'une 3D qui se veut offensive.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, pendant deux minutes, un journaliste à Washington de BBC World meuble, puis retour à l'image de l'homme le plus puissant de la planète, recommençant son discours à la nation sur la loi régulant l'immigration comme si de rien n'était. Et pourtant, pendant 30 secondes, j'ai savouré cet incroyable instant, non pas d'incompréhension, mais d'impuissance. J'ai vu George W. Bush interrompu par la pub. parce qu'en fait, toute cette histoire, elle est là. Non seulement ils ont réduit d'une heure et demie à 20 minutes un discours pour des raisons de diffusion de séries télé, mais en plus, le tunnel de pub de la Fox a été relancé pour permettre de passer tous les annonceurs qui avaient été prévus. Et donc, au lieu de passer la présidence, ils ont préféré passer là quand, les campagnes de pub. Évidemment, ça, les chaînes internationales l'ont diffusé telle quelle. C'est quand même assez effarant. Et je peux dire...
C'est énorme.
Ça fait peur. Enfin, on imagine que le président Hugo Chavez, Vicente Fox, qui est président des États-Unis du Mexique, lui, quand il a fait son discours de réponse, lui, il n'a absolument pas été interrompu et s'est passé sur toutes les chaînes et sans pub.
Está de más decir mi nombre, ¿no? Ya me conocen porque deslizo en swings y tengo skills para joder los beats. Tu DJ observa a Freak haciendo backspin. Piensa que ha llegado el fin, no tiene habilidades real. Inalcanzable, palabra creada para definirme. Retarme a mí te cuesta la carrera, por lo tanto es imposible. Así de mal están las cosas. Soy una persona inaccesible que destroza MCs por no tener nada mejor que hacer, como mi amigo ZKE. Que nos odie, sonido líquido, Golden Team. Rap por excelencia, ¿sabes quién tiene? Tiene el prestige, el puto pedigree. Temes al andar por aquí, te lo advirtió tu mami. Nunca juegues con los grandes, baby, porque lastiman y al final solo se burlan de ti. Son demasiado agresivos, nunca podrás competir. Ok, nunca podrás competir. Mucho menos intentar hacerlo en casa. Contraflujo, segunda fase. Yeah. Preguntan cómo hacerlo. Llegó su fin, lo mejor del menú en el festín. Contra récords y sonido líquido, Golden Team. Bien. Años atrás llenaba de color el túnel. Pintaba con el que hoy trabaja en el banco. Y a mí no se me sube el loser. Pasó algún tiempo, poner mis frases en modalidad estéreo. Costumbre cotidiana. Si quieres igualarnos, consigue, busco, compra un swing que me dé la talla. Equipo singular de mierda que te entrega más de lo que te esperabas. Peligro, menor de edad en este track. Aplastándolos, pintando con su póster man. El que te enseña cómo se hace el rap. ¿Sabes de qué se trata? Barrer el piso con letras de procedencia barata. Juegan a descifrarlo, mientras preguntan el significado, solo dan más lata. Atascan con basura sus cuadernos, meten la pata, y después que vieron que su estilo sirve para nada, se esconden como ratas. Qué risa dan, tontos. Produzco rap porque puedo. ¿Qué? No pienses tonterías, más bien escupo en cada track y detesto canciones de alegría. Primero escucha nuestras rimas, después inténtalo. Si quieres competir con el equipo, primero piénsalo, cabrón, Preguntan cómo hacerlo. Llegó su fin, lo mejor del menú en el festín. Contra récords y sonido líquido, Golden Team. Yo, empieza el apocalipsis. Con el niño acá, tu freestyle está en crisis. Con el flow como pez en agua, mi signo Piscis. ¿Te parece? Ha llegado 11MC. Como golpe de knockout en la UFC. Hacemos el avance con el saxofón que te coloca en trance. Segunda fase y extra cerdo no habrá alcance. Nuestras pisadas kilométricas harán que te canses. Y será tu fin con sonido líquido, Golden Team. ¿Huh? Porque somos los sospechosos comunes. Los que ofenden desde el martes al lunes. Los que hacen que no ayunes con nuestro estilo gordo. Somos los que se apellidan morbo. No comprendes lo que digo, hasta un lado estorbo. Porque somos los graduados sin diploma. Nuestros sonidos se equiparan a los más tóxicos aromas. Que te despiertan de tu coma profundo mental. Sonido líquido. Escupiremos en tu tumba, en tu funeral, yo.
Contraflujo. Con Eric El Niño, c'est des rappeurs mexicains, justement, latinos, ça valait le coup de les passer. C'était pas le morceau que j'avais prévu qui était SOS La Ley, mais Sonido Liquido Golden Team, sachant que j'exagère un peu leur accent, mais ils parlent très bien anglais, hein, là-bas aussi.
Quand tu dis que c'est pas le morceau qui avait été prévu, c'est parce que c'est une erreur ou parce que tu l'as fait exprès d'intervertir ?
Non, c'est que malheureusement, tu peux le mettre sur le procès-verbal de l'émission, j'ai été un peu rapide et un peu dérangé dans tous les sens. C'était Supplément Week-end, donc du samedi 20 mai 2006, émission numéro 71, si je me trompe.
71. Oui.
71 déjà. Il y avait Anne Mignard qui était tout à l'heure parmi nous et qui donc va reprendre l'antenne à partir de 14h pour le printemps des libertés. Mais en attendant, Thomas, le résumé de Supplément Week-end.
Alors déjà, ce que vous n'avez pas eu, c'est du sport, puisqu'il n'était pas là. On a eu de la BD chinoise de rue, on a eu du cinéma indépendant et du cinéma pas bandant, cette fois en DVD. Et puis, voilà, de la bonne humeur, comme d'habitude, du soleil qui ne frappait pas dans la cave et...
Ouais, ouais, il va falloir que tu fasses un résumé à ma place, hein, sur le site internet de l'émission, daskitch.net, où vous allez sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net, et vous pouvez écouter en différé, ou même en podcast.
Et voilà. Vous pourrez vous repasser les 10 bonnes raisons pour ne pas aller voir le Da Vinci Code.
Ah oui, et tout d'autres choses. Et aussi nous écrire, commenter, dire si vous acceptez, si vous trouvez que l'émission est bien ou pas du tout. Là, nous, on a été un peu pris par les conditions du direct.
Vous pourrez aussi apprécier nos aventures en images, en BD et en photo.
Ouais, c'était promis ça.
Oui, hein, la BD, elle traîne un peu, oui.
C'est pas bien, Thomas. Vous écoutez Radio FMR, 13h, 15 minutes et 40 secondes. On n'a jamais rendu l'antenne aussitôt. Non, je déconne.
Yeah. Ouais, mais à deux, si.
Ouais, c'est vrai, parce que du sport était censé tenir 3/4 d'heure. Et voilà. Bon, il était pas là. Il avait dit, ouais, on fera et tout, etc. Et puis, c'est désisté hier, malheureusement. C'est comme ça. D'ici 45 minutes, le printemps des urgences... le printemps des libertés, excusez-moi, en direct du Barnum, c'est 60 Grande Rue Saint-Michel. Donc on vous invite à y aller, surtout qu'il fait beau là, ça va être l'occasion. Là, je vous dis pas, là on va manger dehors, on va se faire plaisir. À 19h, Happy Hour. À 20h, c'est la Cetero Experience avec Fabrice. 21h, 30 Liquid Sky avec.
Avec Jésus.
Non, c'est. J'oublie à chaque fois son nom, je le regrette. C'était Hallucination. Ah, c'était la bonne époque, ça, c'était en 97. Et à partir de 23h, de la drum and bass avec Breakbeat Experience et tout le tout team. Voilà, vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz. Nos émissions sont en direct à peu près jusqu'à 5h du matin. Là, ça va être une coupure. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre sur www.radio-fmr.net et que donc. Notre émission, elle est téléchargeable pratiquement depuis les débuts. N'hésitez pas à nous parler.
Ah, mais pas pratiquement, elle est téléchargeable depuis les débuts.
Non, parce qu'il manque une toute petite partie, la première.
Une petite partie, la première. Mais ouais, on a gardé la partie la plus intéressante.
On a tout enregistré, on a tout sur archive. Allez-y, messieurs de la loi DADVSI, venez nous saisir et dire c'est pas bien ce que vous faites et tout, etc. De mettre comme ça en libre téléchargement de la culture, c'est pas bien. C'est pas bien, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai peur.